Prenez votre Bible au chapitre 2 de la Genèse et au verset 7. Et l'Éternel, Dieu, forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Dieu forme donc le corps à partir de l'argile, de la poussière du sol. Il souffle en lui une respiration de vie ou un souffle de vie. Et en hébreu, souffle et esprit sont les mêmes mots. Et l'homme devint une âme vivante. Je crois qu'il faut toujours revenir à ces versets de la création pour que nous puissions comprendre comment nous fonctionnons à la fois dans... Bien sûr, notre corps, c'est facile, c'est très concret, notre corps est visible, palpable, nous vivons dans notre corps, c'est facile. Mais nous ne savons pas comment vivre dans notre esprit. Nous savons relativement vivre dans le cadre de notre âme qui correspond à notre personne, à notre personnalité, notre caractère, avec les grandes fonctions de l'âme, je le rappelle, qui sont la volonté, l'intellect et l'affect, les émotions. Trois grandes fonctions qui correspondent à l'âme. Alors nous savons vivre dans notre âme, bien sûr, mais nous méconnaissons, ou nous ne connaissons plus, ou nous ne connaissons tout simplement pas notre esprit. Et nous ne savons souvent pas que nous avons un esprit. Or, nous sommes des êtres spirituels avant toute chose, puisque nous sommes animés du souffle de Dieu, et Dieu est esprit. Donc nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres de chair. Nous devrions donc connaître le fonctionnement de notre esprit, savoir où il se trouve, comment il fonctionne, à quoi il sert. Et nous sommes souvent très ignorants de toutes les grandes fonctions de l'esprit, de toutes ses qualités, ses compétences, et aussi des sources qui animent notre esprit. Donc il est très important de réaliser que nous sommes faits à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, confèrent les chapitres de la création dans le livre de la Genèse. La chute est intervenue, elle a créé une nouvelle situation. Cette nouvelle situation va être solutionnée dans le cadre de l'alliance renouvelée, de la nouvelle alliance dont le prophète Jérémie parle. Et nous allons voir un petit peu plus loin que Dieu va mettre en nous un nouvel esprit et un nouveau cœur. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va aussi nous parler de ces trois parties qui composent notre être. Vous l'avez vu dans le livre de la Genèse, un corps, un esprit, une âme. Alors regardez avec moi le chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens et au verset 23. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Que votre esprit et votre âme et votre corps, tout entier, au pluriel, soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc nous occuper plus spécifiquement de notre esprit. À quoi correspond-il dans la vie de tous les jours, tout simplement ? Vous vous souvenez qu'à la chute, ce que nous appelons la chute, c'est-à-dire la transgression de l'alliance d'Adam, Osée 7:6, Dieu avait dit « Au jour où tu en mangeras, tu mourras ». Et nous voyons bien que Adam n'est pas mort physiquement le jour où il a mangé le fruit. Le jour où il a transgressé son alliance, le jour où il a désobéi, il n'est pas mort physiquement. Mais qu'est-ce que la définition de la mort ? Bien, on pourrait le résumer très simplement par ces quelques mots. C'est une rupture de relation. Vous savez très bien que si quelqu'un décède à côté de vous, vous avez beau l'appeler, le secouer, lui parler, l'interpeller, il ne vous répond plus. La relation est coupée. La relation n'existe plus. Eh bien, c'est la relation avec Dieu, entre le premier homme, entre le premier couple et Dieu, a donc été rompue dès l'instant de la désobéissance. Relisez les premiers chapitres de la Genèse. Vous allez voir que le premier couple ne peut pas rester dans le jardin d'Éden, il est chassé du jardin d'Éden, il ne peut plus être en relation, il a peur de Dieu, il se cache, il est chassé du jardin d'Éden, et il va y avoir la nécessité de faire couler le sang d'animaux pour revêtir l'homme et la femme qui se découvrent nus. Dieu, le Dieu de la vie, va faire mourir des animaux pour prendre leur peau et revêtir l'homme et la femme. Là, c'est un type annoncé de la venue de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de Jésus-Christ, qui va permettre que nous ne soyons plus nus devant Dieu, mais que par la foi en lui, par la foi en son œuvre expiatoire, nous puissions devenir, être revêtus de Christ, nous puissions avoir une relation qui soit renouée au travers de Jésus-Christ. Nous étions morts, c'est-à-dire sans relation avec Dieu, et en Jésus-Christ, nous avons cette possibilité de vivre. Ce qui se passe à la sortie du jardin d'Éden annonce donc cette alliance qui va être renouvelée, nouvelle, faite nouvelle en Jésus-Christ. Dieu va l'annoncer encore par le biais du prophète Jérémie et il va expliquer par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel comment est-ce que cette nouvelle alliance va fonctionner dans notre être. Dans l'Épître aux Hébreux, regardez avec moi, au chapitre 8, verset 6, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses. Verset 10, car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. En mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leur cœur, et je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple, et ils n'enseigneront point chacun son concitoyen et chacun son frère, disant connaît le Seigneur. Car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et je serai clément à l'égard de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés et de leurs iniquités. Ceci est une citation du prophète Jérémie, du chapitre 31, au verset 31 jusqu'au verset 34. Cette nouvelle alliance n'est pas seulement pour le peuple d'Israël. Souvenez-vous bien que le peuple d'Israël avait pour mission de transmettre l'alliance et les commandements de Dieu. Les 10 paroles devaient être transmises au monde. À cause de l'épisode du veau d'or, ils ont été en quelque sorte déchus de leur mission. Et ils ont reçu une alliance particulière, l'alliance avec Moïse et son peuple, qui les a tenus en quelque sorte dans une captivité qui était pédagogique jusqu'à la venue du Seigneur. Et maintenant, ce qui est appelé Israël, c'est l'Israël de Dieu dont parle Paul, c'est-à-dire où il n'y a plus ni juif ni nation, ni juif, ni goïm, mais un seul homme nouveau, un seul être nouveau, et Jésus a détruit le mur de séparation entre les juifs et les nations, et tous ceux qui sont, qui croient en l'œuvre de Jésus-Christ, qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ, font partie de l'Israël de Dieu. Donc, cette alliance, Jésus-Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance. Nous sommes, nous, qui sommes croyants, nous qui sommes engagés avec le Seigneur, nous faisons partie de l'Israël de Dieu, l'Israël céleste. Nous sommes donc dans cette nouvelle alliance. Et n'oubliez pas qu'en mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi dans leur cœur. Et là, cela nous renvoie au livre d'Ézéchiel, où Dieu va dire qu'il nous donne spécifiquement un nouveau cœur et un nouvel esprit, que sur ce cœur, il allait écrire, il allait graver ses commandements. Ses commandements ne sont plus... Et quand je dis commandements, c'est-à-dire les 10 paroles, ne sont plus gravées sur des tables de pierre que Moïse a dû briser au pied de la montagne à cause de l'épisode du veau d'or, mais elles sont inscrites, gravées dans nos cœurs, et il nous donne un nouvel esprit. Pourquoi devons-nous avoir un nouvel esprit? Alors je vais vous donner d'abord la référence d'Ézéchiel pour que vous puissiez le regarder vous-même. Alors, il s'agit donc d'Ézéchiel, chapitre 11 et verset 19. Regardez aussi le chapitre 36 et le verset 26. Donc, Dieu est obligé de nous donner un nouvel esprit, bien sûr, pourquoi? Il ne va pas prendre une vieille chose qui ne fonctionne plus et qui est morte, comme l'esprit du premier couple. N'oubliez-vous pas que la chute, c'est la rupture de relation, c'est la mort, rupture de relation avec Dieu. Comment est-ce qu'on a le contact avec Dieu? Seulement par notre esprit. Ce sont les choses de même nature qui se retrouvent. Dieu est esprit, donc c'est par l'esprit qui était mis dans l'homme que l'homme pouvait avoir ce contact avec Dieu. À cause de sa transgression de l'alliance de Dieu, à cause de sa désobéissance, son esprit meurt. Meurt, c'est-à-dire n'a plus la relation à Dieu. Ça ne veut pas dire que l'esprit n'est pas là et ne fonctionne pas. L'esprit est ouvert aux choses spirituelles du monde des ténèbres. L'esprit est enténébré, il est là. Et Dieu ne va pas utiliser cet esprit enténébré pour le faire revivre. Il va carrément mettre un nouvel esprit. Et ce nouvel esprit ne peut pas être pollué parce que c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et il ne nous est donné que dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Et nous rentrons dans la Nouvelle Alliance par une décision et une démarche de foi. Vous savez, quand deux personnes concluent une alliance, elles la décident. Il y a des clauses, il y a des droits, il y a des obligations, et les droits et les obligations doivent être respectés de part et d'autre, et sont respectés de part et d'autre. Et bien, dans la Nouvelle Alliance, c'est exactement la même chose. Donc Dieu va nous donner un nouvel esprit, il va graver sur notre cœur. Et qu'est-ce que notre cœur? J'aimerais encore le redire, parce que là il y a souvent aussi beaucoup de confusion. Notre cœur n'est pas le siège de nos émotions, ce n'est pas le petit cœur rouge qui bat affectif à « I love you », non, ce n'est pas tout ça. Dans la Bible, le cœur, ça veut dire le centre. On va dire par exemple le cœur d'une pomme, vous savez que c'est le centre de la pomme. C'est donc la partie la plus intérieure, la plus profonde, la plus intime, la plus cachée de notre être. C'est ça, notre esprit et notre cœur se trouvent là. Le cœur est l'interface, en quelque sorte, entre notre esprit et notre âme. Notre esprit nouveau, qui a ce contact, cette relation à Dieu retrouvée, ce nouveau cœur qui est capable de traduire, de transmettre toutes les révélations que notre esprit reçoit de Dieu. Vous savez que l'esprit a ses canaux de communication et l'esprit communique par révélation. Nous recevons les révélations de Dieu. Qu'est-ce qu'une révélation? C'est un dévoilement. C'est-à-dire que la chose a toujours été, mais je ne la voyais pas, et Dieu lève quelque part le voile pour que je voie ce que je ne voyais pas. C'est ça la révélation. Et l'Esprit de Dieu nous révèle. Il nous communique par révélation. Et l'esprit humain n'a pas la capacité de mettre en mots, c'est l'âme avec son intellect qui va servir l'esprit humain, et le cœur va être cette interface entre l'esprit et l'âme pour traduire en paroles, en mots, pour exprimer, pour être capable de le dire à haute voix, va traduire tout ce que l'esprit reçoit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communique à notre esprit communique par le biais de ce que la Bible appelle le cœur, c'est-à-dire l'être intérieur très profond, et l'âme va pouvoir le mettre en mots par son intelligence, elle va pouvoir le communiquer. L'apôtre Paul parle dans ses lettres de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il n'a pas choisi une expression arbitraire, mais c'est tout à fait exact. C'est notre homme intérieur, notre être intérieur, c'est la chose la plus invisible, profonde, cachée. C'est en quelque sorte notre esprit, notre dimension spirituelle, notre être spirituel. Vous savez qu'on pourrait comparer l'être humain un petit peu à des poupées russes. Vous avez la première poupée bien visible extérieure qui est le corps, il est visible pour tout le monde. Vous l'ouvrez, vous avez une autre petite poupée dedans qui correspond à l'âme. Vous voyez bien que le caractère et la personnalité sont visibles pour les proches, hein. Tout le monde ne se rend pas compte du caractère de la personne, mais les proches, oui. Et puis si on ouvre encore la petite poupée, on en trouve encore une autre, et ça c'est l'esprit qui est vraiment l'être intérieur. Et notre esprit c'est cela, c'est cet être intérieur qui est invisible, caché au fond de nous, mais qui en même temps transparaît au travers de notre corps, de notre être extérieur. Notre corps physique c'est notre corps extérieur. Et c'est en quelque sorte l'enveloppe de notre être intérieur qui correspond à l'esprit. Vous savez que notre être spirituel, ou notre corps spirituel dont Paul parle d'ailleurs dans ses épîtres, c'est exactement, je vais dire, le clone de notre être extérieur. C'est-à-dire qu'il y a la même forme, la même allure. Lorsqu'on voit l'esprit d'une personne, on voit la personne. Mais ce n'est pas, à ce moment-là, le corps de chair que l'on voit, mais c'est son corps spirituel qui a la même apparence. Notre être spirituel, notre esprit, a aussi ses propres capacités de communiquer, de percevoir, qui sont différentes de l'être extérieur. Le corps a ses moyens de communication, c'est les cinq sens, mais l'âme aussi a ses moyens de communication. Ça va être toutes les émotions qui vont passer, le rire, les larmes, la parole, toutes les intonations. Tout ça, ça va être les moyens de communication de notre âme. Mais notre esprit a aussi des moyens de communication. Il est, j'irais dire, autonome, c'est la partie incréée de notre être, puisque cela vient de Dieu. Dieu est incréé, il est créateur, il souffle en nous cet esprit, son esprit. C'est donc la partie incréée de notre personne, de notre être, c'est notre esprit. L'âme étant la conjonction du souffle de Dieu dans le corps.